Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la dernière émission du mois de mars, puisqu'on est le dernier jour du mois de mars.
Et demain, c'est le 1er avril. On ne fait pas d'émission sur les poissons, non?
Non, on ne fait pas d'émission sur les poissons. Et vous venez d'entendre Edith, qui est présente dans le studio ce soir. La dernière fois, on l'avait en enregistrement, mais là, elle est devant moi. Et il y a aussi Claire-Lise.
Oui, et je ne suis pas en virtuel.
Elle n'est pas en virtuel. Alors bon, pour les auditeurs d'Évreux et de sa région, il y a des soucis. L'émission est diffusée, mais dans des conditions un peu particulières. Il y a des soucis d'émetteurs qui doivent normalement rapidement être solutionnés. Et donc, en fait, cette émission n'est pas disponible sur l'émetteur FM ce soir d'Évreux. Mais sur tous les autres moyens pour écouter la radio, Internet, la radio numérique, l'émetteur de Verneuil, tout ça, ça fonctionne. Donc on vous repassera l'émission dans la semaine pour ce Dévreux le plus rapidement possible, d'où remarchera. Et on vous rappelle qu'on a plein de podcasts sur le site de la radio principactif.net. Donc on peut nous réécouter. Voilà. Pour commencer l'émission, je vais vous lire l'édito de la dernière chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. Abonnez-vous.
Qui l'a reçu dans sa boîte aux lettres.
Nous, on ne l'a pas reçu, Didier. Ce n'est pas juste.
J'ai eu une primeur, mais je l'ai reçu.
Gravigny avant Évreux.
Deux coéquipières l'attendent impatiemment. Et donc, donc abonnez-vous. Le formulaire d'abonnement est sur le site d'Amnesty France, amnesty.fr. Voilà ce que dit Anne Savinel, qui est donc la présidente. 28 février 2026, deux mois à peine après le massacre perpétué par le régime iranien contre sa propre population, les premières bombes américaines et israéliennes s'abattent sur l'Iran. Ce nouveau déchaînement de violence ne saurait faire oublier le courage des manifestants et manifestantes. Toutes générations confondues dans une mobilisation inédite, ils et elles ont crié leur colère contre leurs dirigeants dans tout le pays. Une incroyable détermination, une leçon de résistance face à une répression brutale, cruelle, inouïe, orchestrée par les gardiens de la Révolution. Pour les familles iraniennes traumatisées, l'attaque israélo-américaine est une épreuve supplémentaire. Ces frappes touchent des centres de soins, des quartiers résidentiels, des lieux de vie, comme cette école primaire de filles à Minab, dans le sud de l'Iran, ciblée par ces frappes. Le guide suprême, Ali Khamenei, n'a pas survécu. Il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Quelques jours plus tard, son fils prend la relève. Les experts juridiques internationaux l'affirment, l'attaque américo-israélienne contre l'Iran a violé la Charte des Nations Unies. Nos analyses en cours indiquent que lors des hostilités qui ont suivi, les États-Unis, Israël et l'Iran ont commis des actes illégaux au regard du droit international. Ces États continuent à en commettre à l'heure où nous écrivons ces lignes. Plus de 10 pays touchés. Le Moyen-Orient s'embrase et le conflit accentue la rupture de l'ordre mondial dans une volonté non dissimulée de provoquer l'effondrement de notre système et de ses mécanismes de protection de nos droits, de la paix et de la sécurité. La loi du plus fort balaie tout exercice diplomatique, se moque des efforts fournis par ceux et celles qui croient à l'intelligence de la concertation. Dans les pays du Golfe ciblés par l'Iran, ainsi qu'en Israël, les missiles iraniens atteignent des civils. Quant à la population palestinienne du territoire occupé, elle n'est quasiment pas protégée par le dispositif de défense israélien, système antimissile, abri, réseau d'alerte, etc. Cette guerre sert aussi de prétexte à Israël pour renforcer les contrôles à Gaza, aggraver les blocages de l'aide humanitaire, les pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, ainsi que la hausse des prix. Au Liban, la riposte israélienne au tir du Hezbollah pro-iranien est terrifiante. Selon l'ONG Human Rights Watch, Israël y aurait utilisé du phosphore blanc. Des missiles frappent le sud du pays jusqu'à la plaine de la Bekaa, ainsi qu'à Beyrouth. Les morts se comptent par centaines et des milliers de familles sont contraintes de fuir. À quand la fin de l'impunité des responsables de massacres, la fin de cycles infernaux qui permettent la répétition incessante des crimes? Donc voilà ce que dit Anne Savine Elbaras, effectivement. C'est un résumé de ce qui se passe. Et je crois qu'Edith, dans le courant
oui,
de l'émission tout à l'heure,
j'en parlerai aussi.
Tu vas revenir sur Israël, ouais, etc., le Liban
et voilà.
Autres.
Oui,
bon.
Tout à fait.
Et moi, j'aurai l'occasion de dire quelques mots aussi à propos des États-Unis. Voilà.
On peut quand même dire qu'effectivement, il y a des exactions de la part des belligérants, en tout cas l'Iran, Israël et les États-Unis, qu'il y a des crimes de guerre qui ont été perpétrés par chacun de ces pays. Et que l'école, lors des premières frappes, l'école qui a frappé des petites filles et des jeunes filles iraniennes, a fait quand même 115 morts par un tir, a priori, américain.
Oui, voilà. Non, c'est sûr.
Personne ne se révolte par rapport à ça. Enfin, c'est quand même
La problématique, c'est que voilà, ce sont les civils qui piochent dans tous les sens. Quoi. Ouais. Il y a aussi un article sur une synagogue en Israël et c'est un missile iranien. Donc tu te dis, il y a pas de raison à ce que ça arrive là. Alors est-ce que c'est des armes mal?
De toute façon, ils en sont venus maintenant à frapper sur, parce qu'au début c'était des cibles militaires ou les infrastructures où pouvait y avoir des terroristes ou des militaires. Maintenant, ils en sont quand même à détruire les universités, à détruire les écoles, à détruire les centres de santé. Enfin, c'est tout ce qui
fait la vie quotidienne, la vie des gens,
la population de vivre, et ils sont en train de tout raser, quoi.
Juste un petit mot pour revenir sur les 115 jeunes filles qui sont mortes en Iran suite au bombardement. Effectivement, il y a un article d'ailleurs sur le site qui explique très bien, sur le site d'Amnesty.fr. Et c'est parce que l'armée américaine a utilisé l'intelligence artificielle pour diriger les tirs. Et l'intelligence artificielle, les fichiers n'avaient pas été remis à jour. Et donc, ils considéraient que cette école faisait encore partie d'un groupe des gardiens de la Révolution. Alors que ce n'était plus le cas et que les bâtiments avaient été complètement séparés. Mais comme l'intelligence artificielle n'avait pas été remise à jour, eh ben, les données ont été envoyées aux bombardiers de bombarder l'école. Voilà.
Et peut-on aussi, les gens qui nous suivent depuis très longtemps, quand on a commencé à entendre parler de drones, quand on a commencé à entendre parler de guerre par personne, enfin par outil interposé, en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, voilà, on en est dans des systèmes où l'humain n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on a envie d'avoir les soldats qui...
L'humain n'est pas là, mais les civils sont quand même victimes de part et d'autre. Hein,
C'est un système d'impunité quelque part, en disant, mais attendez, ce n'est pas notre faute. Là, c'est l'intelligence artificielle qui nous a gouré. Donc non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter sur des façons de botter en touche et que, effectivement, les civils prennent.
Bien, donc on va continuer sur un sujet tout à fait local. Qui va vous parler de la fermeture de la Mala. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la Mala, Clarisse?
Déjà, les personnes qui n'ont pas d'hébergement font habituellement appel au 115. Le 115, c'est géré dans le département par ISOS. C'est un appel d'urgence pour demander un hébergement d'urgence.
ISOS, c'est une association?
Oui. Donc, c'est géré par ISOS au niveau du département. Il y a d'autres départements, ce n'est pas toujours les mêmes associations qui gèrent. Et donc, le 115, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, est saturé. En fait, pratiquement tous les 115 de France sont saturés sur les demandes d'hébergement d'urgence, que ce soit des personnes françaises qui ont des problèmes d'hébergement, mais aussi beaucoup de personnes étrangères, dont des demandeurs d'asile, parce qu'il n'y a pas assez de centres d'accueil pour les demandeurs d'asile qui doivent être pris en charge le temps de leur demande d'asile. Il n'y a pas assez de place dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, pour leur hébergement. Et donc, du coup, ces personnes, des fois, des familles avec des enfants, se retrouvent à aussi demander au 115. Il y a toutes les personnes qui ont eu leur procédure d'asile, mais l'asile a été rejeté. normalement, ces personnes, maintenant, devraient, avec les nouvelles lois, accepter de repartir. Mais beaucoup, pour beaucoup, 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 en fait, est arrivé en France après les périples que l'on sait. Ils veulent rester. Et donc, quand leur demande d'asile est terminée, quand ils étaient dans des CADA, quand ils reçoivent la notification de la Cour nationale du droit d'asile qui dit « votre demande a été rejetée », 30 jours après, ils doivent sortir. Il faut savoir que les demandeurs d'asile qui sont dans des CADA, quand ils doivent sortir 30 jours après le rejet de leur demande d'asile, il n'y a pas de trêve hivernale. C'est-à-dire que comme c'est afflux tendu dans les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile, eux doivent sortir même des fois en plein hiver. Et donc, ils viennent re-engorger les services du 115. Et le 115, en France, il y a une loi qui dit on met les gens à l'abri pendant les mois d'hiver. Donc, du 1er novembre au 31 mars, il y a ce qu'on appelle la mise à l'abri. La mala,
voilà,
mise
ça.
À l'abri. Et donc, sur Évreux, la mise à l'abri, c'est aussi sur orientation du 115, c'est géré par une autre association, Accueil Service. Effectivement, il y a entre 45 et 50 personnes qui sont mises à l'abri à la mala. Et il y a aussi des personnes qui bénéficient d'hébergement d'urgence pendant la période hivernale, dans les hôtels sociaux, en fait, les hôtels solidaires, où il y a beaucoup de places qui sont réservées pour le 115. Toutes ces personnes, au 31 mars, donc demain, ce n'est pas une blague, demain, 1er avril, malheureusement, de nombreuses personnes vont se retrouver sans hébergement, puisque le 115 est saturé et les places qui sont ouvertes pour l'hiver ne sont pas reconduites sur la période d'été. Il y a une question aussi de budget. Et donc, du coup, beaucoup de personnes demain, des femmes, des enfants, parfois des hommes aussi, vont se retrouver à la rue. J'ai déjà une liste de plusieurs familles de 3-4 enfants et parfois des très jeunes enfants. On a une famille avec une maman dont le nourrisson a à peine un mois, qui vont se retrouver sans hébergement à partir de demain. Donc si vous connaissez des gens qui peuvent héberger, alors c'est pas facile une famille nombreuse, mais des fois quand c'est juste une maman avec un enfant, c'est peut-être plus facile. Si vous connaissez des gens qui peuvent proposer des hébergements solidaires, faites-vous connaître auprès de la radio éventuellement, parce qu'on cherche des solutions, sachant que dans les personnes qui sont à la mala, il y a aussi des personnes qui parfois sont en voie de régularisation et qui n'attendent que pouvoir être régularisées, ont des capacités pour travailler dans des métiers en tension, apprennent le français et pour s'intégrer. Et donc du coup, ce qu'il leur faut, c'est juste un toit pour s'abriter. C'est un des droits fondamentaux qui n'est pas forcément respecté en France. Et je pense aussi à tous les instituteurs qui parfois nous appellent, alors ils appellent un toit sous la main ou le CFED, pour nous signaler que leurs petits élèves ont passé la nuit à la rue et arrivent à l'école sans avoir pu déjeuner, sans avoir pu se laver et connaissent le traumatisme de la rue. On en a déjà quelques-uns qui se sont manifestés en s'inquiétant, parce que les mamans s'inquiètent à l'avance et c'est terrible, quoi. Donc malheureusement, bon, puis il ne faut pas compter sur d'autres, parce que comme c'est une compétence du département, la municipalité dit que ce n'est pas de sa compétence.
Bien sûr.
Alors que parfois, il y a des locaux vides qui pourraient servir d'abri, mais voilà, il n'y a pas la volonté de le faire. Donc du coup, toutes ces familles, vous allez sans doute les voir, sachant que le week-end, c'est pareil. Il y a un accueil service à ce qu'on appelle la passagère. Donc du coup, ils ouvrent un petit peu les week-ends durant la période d'hiver. Mais pendant la période d'été, la passagère, elle est ouverte du lundi au vendredi. J'avais redemandé à une des personnes de l'accueil de me repréciser. Mais en principe, les week-ends, ça sera à nouveau fermé. Ce qui fait que ces familles, quand elles peuvent aller au moins se laver le matin ou déjeuner, passer du temps à l'abri. Au mois d'avril, des fois, il fait beau, mais il ne fait pas toujours chaud, chaud, chaud. Et donc, ce sont des familles qui vont se retrouver dehors. Vous allez les voir dans des abribus, vous allez les voir autour de la gare. Et ces femmes qui sont... Enfin, ces femmes, ces enfants, ils sont quand même à la merci aussi d'agressions.
Bien sûr.
Et donc, c'est quand même dramatique de vivre le traumatisme de la rue. Voilà.
Et ben, si vous avez effectivement, si vous connaissez des gens ou si vous avez vous-même des solutions pour héberger des gens, même provisoirement, vous pouvez aussi nous adresser ces informations à notre adresse mail et on fera suivre. evreux@amnistyfrance.fr evreux@amnistyfrance.fr N'hésitez pas. Et puis, il y avait une autre chose qui m'avait traversé l'esprit, mais maintenant, je ne vais plus m'en rappeler. Donc, voilà, par rapport... Ah oui, c'est ça, c'est que bien évidemment, le fait d'avoir un toit au niveau du droit international, c'est un droit humain fondamental.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais.
C'est ce que tu as dit.
Ouais.
C'est ce que tu as dit.
Mais normalement, le Conseil d'État avait reprécisé en décembre 2022, je crois, c'était repassé au Conseil d'État, que normalement, quand les personnes n'ont plus de toit, il devrait y avoir le principe d'un hébergement d'urgence inconditionnel.
Oui,
sauf que les services sont saturés, et donc du coup, tout le monde se défausse un peu là-dessus et il n'y a pas d'effort de fait par rapport à la recherche de solutions. Par contre, il y a des intervenants sociaux de plein d'établissements d'accueil qui s'inquiètent et qui nous téléphone en nous disant « j'ai cette famille qui va sortir, il n'y a pas de solution, légalement de solution, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Et donc, ils font appel à l'hébergement solidaire, c'est-à-dire l'hébergement solidaire et citoyen.
Ouais. Et ce que je voulais dire en complément du fait que d'avoir un toit, c'est un droit fondamental, ce que précise le droit international aussi, c'est que ce droit-là est tout à fait indépendant de la situation administrative de la personne considérée dans le pays.
C'est pour ça que j'ai dit inconditionnel.
Oui, c'est ça. Et que donc, effectivement, il n'y a pas du fait de dire « vous êtes entre guillemets », un mot qu'on n'aime pas du tout, « vous êtes entre guillemets en situation illégale », ne retire absolument pas le fait d'avoir le droit d'avoir un toit.
Voilà. Avant d'être des migrants, ce sont des êtres humains.
C'est ça.
Et des enfants.
Il faut toujours le rappeler quand même.
Et avant d'être des MNA, c'est des enfants. Avant d'être des OQTF, ce sont des personnes humaines.
Bien. Donc, il y avait un autre sujet. On va rester en France. Il y avait un autre sujet. C'était
Yves
qui voulait vous en parler.
Voilà,
c'était la reconnaissance faciale appliquée par la police, si je ne me trompe pas, en France.
Eh bien, comme tu as tout dit, je vais m'arrêter là. Non, je vais vous raconter.
J'ai juste dit deux titres.
Alors, ils sont arrivés, ils nous ont contrôlés direct, ils ont sorti des gros portables rectangulaires, ils les ont pointés vers nous et ils nous ont pris en photo. Ça, c'est le témoignage d'Ahmed, 18 ans, apprenti pâtissier, qui n'a même pas eu à présenter ses papiers. Sa seule photo a suffi à renseigner les policiers sur son identité. Un contrôle opéré en dehors de tout cadre légal. C'est par ce témoignage que le média d'investigation Disclose ouvre ses révélations. Comment les forces de police ont-elles pu recourir à la reconnaissance faciale en pleine rue et en temps réel ? Via un outil installé sur leur téléphone de service appelé NEO pour nouvel équipement opérationnel. Selon Disclose, NEO leur donnerait accès à un outil de reconnaissance faciale relié à un immense fichier de la police, le TAJ, fichier d'antécédents judiciaires permettant d'obtenir les informations personnelles sur plus d'un quart de la population française grâce à une photo prise sur le vif. Alors, cette enquête de Disclose révèle que la police française utilise bien le fichier TAJ, fichier d'antécédents judiciaires, lors de contrôle d'identité dans l'espace public. Mais ça, c'est carrément interdit, car ce fichier est pourtant strictement encadré et limité aux enquêtes judiciaires. En aucun cas, lors de contrôle d'identité, ce fichier ne doit être consulté que par des agents spécialement habilités. Ce fichier TAJ, j'ai appris ça aussi en lisant cet article, il est tentaculaire. Selon Disclose, il contiendrait environ 17 millions de fiches sur des personnes mises en cause dans des enquêtes, mais aussi sur 48 millions de victimes. Et chaque fiche donne des données personnelles, parfois sensibles, nom, date de naissance, profession, appartenance politique ou religieuse. Depuis, De plus, le TAJ contient jusqu'à 9 millions de portraits de face, précise Disclose, d'après un document du secrétariat général du ministère de l'Intérieur obtenu par ses équipes. Alors, vous pensez que la reconnaissance faciale pouvait être utilisée dans le cadre d'un contrôle ou d'une vérification d'identité? C'est totalement illégal. La direction de la police nationale l'a formellement interdit. Disclose a pu consulter des documents du ministère de l'Intérieur et les règles d'utilisation de ce fichier TAJ sont très claires. Toute utilisation frauduleuse entraîne la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l'agent. Mais depuis que ces fichiers sont consultables depuis les téléphones de service des policiers et non seulement dans leur bureau, la police a pris l'habitude, aurait pris, on va dire, puisque c'est une enquête, l'habitude de consulter les fichiers lors des contrôles d'identité et d'activer l'option de la reconnaissance faciale. Ces pratiques sont interdites en France. Alors, avec Disclose et la Quadrature du Cercle, une ONG qui surveille tout ce qui se passe sur Internet, la Quadrature du Cercle a publié un guide sur la reconnaissance faciale et les contrôles d'identité, ce manuel étant l'accès libre. Donc, il suffit d'aller chercher cet article qui est sur le site d'Amnesty, de cliquer, là, je ne peux pas le faire à la radio, hein, pour avoir ce petit manuel et qui vous permettra de vous défendre face aux abus de la reconnaissance faciale. Et la Quadrature du Cercle expose les trois raisons qui rendent l'utilisation de la reconnaissance faciale via le fichier TAJ illégale. Premièrement, prendre une photo lors d'un contrôle d'identité est strictement encadré. Consulter le TAJ, c'est un fichier réservé aux enquêtes judiciaires. Identifier par reconnaissance faciale, c'est un usage sans base légale. La solution, c'est absolument interdire la reconnaissance faciale, car c'est une menace pour notre vie privée, surveillance généralisée, erreur d'identification. Ça fait penser à ce que tu disais sur l'intelligence artificielle qui n'était pas mise à jour. Hein, oui. Ça, on ne sait pas du tout comment c'est géré.
C'est ça.
Discrimination c'est accentuée. Bah là, c'est Ahmed qui a été pris par un contrôle. Hein, ce n'est pas Virginie ou Jean-Baptiste. Hein, voilà.
C'est bizarre.
Une fois de plus. Donc, la reconnaissance faciale porte atteinte à nos libertés fondamentales. Alors, écoutez bien la suite. Entre les mains de régimes autoritaires, la reconnaissance faciale peut devenir une arme d'une extrême dangerosité pour les droits humains. Donc, on sait très bien que les autorités françaises sont tout à fait intéressées par ces techniques de surveillance. On avait déjà fait des mouvements d'opposition par rapport à la vidéosurveillance algorithmique des Jeux Olympiques. Hein. Il suffisait qu'on marche doucement ou qu'on marche vite et on allait être dans les filets de cette vidéosurveillance. Mais là, il faut aussi se défendre de cette façon très facile maintenant de la police de rentrer dans ces fichiers qui ne correspondent pas à simplement des contrôles d'identité dans la rue. Voilà.
Alors juste pour préciser les choses, tu as dit tout à l'heure la Quadrature du Cercle.
Ah, du net, du net. Oui, oui, tu as raison. Oui, c'était mignon le cercle. Mais en plus, je connais bien cette ONG.
L'association qui lutte avec Amnesty pour la défense de nos droits dans l'univers numérique et les abus de tout ça.
Oui, voilà. Et juste, parce que tu me fais revenir là.
Parce que sur le TAJ, si par exemple vous faites une petite infraction routière, mais très légère, ça. Tout est inscrit, en fait. Et vous avez le droit de demander d'effacer quand c'est pas pénal. Non, c'est pas pénal. Ouais. Donc, du coup, il y a des choses qui peuvent être... Non, puis même quand vous avez payé les amendes ou les choses comme ça et tout, vous avez le droit de demander l'effacement, en fait.
Ouais.
Pour certaines...
Et juste dire par rapport à ce qu'on peut dire, parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation-là. Donc, la Quadrature du Net précise, la photographie du visage lors d'un contrôle dans la rue est faite en violation des règles de la vérification d'identité, c'est-à-dire sans prévenir le procureur, sans PV. Et en dehors de cette procédure de vérification d'identité, la prise de photo du visage est interdite. De plus, une circulaire interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale lors du contrôle, c'est ce que je l'avais déjà dit. Mais savoir qu'il y a des termes très précis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous photographier comme ça, simplement parce que c'est un policier et vous, une personne lambda.
Même si on porte un badge police. Voilà.
Un peu de musique,
un peu de musique, effectivement, et on se retrouve juste après.
On va s'en sortir. Un jour, les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller, ils vont reprendre leurs droits et ils vont foutre en cabane les banquiers et tous les traders, les Monsanto et les Bayer, les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir, je te dis. Les puissants vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la PAC de nous empoisonner. Les riches, au lieu de s'offrir des yachts et d'acheter de la coke aux Arabes qui sont dans leur cité pourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelinats, aux hôpitaux et aux écoles. On sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse sorcière, sans destruction de notre terre. Bordel, mais on va s'en sortir. On va arrêter de creuser des trous de plus en plus profonds. On se connaît pour des petits Africains de 7 ans. Au lieu d'aller à l'école et d'avoir une petite chance de se sortir de leurs conditions pourries, non, ils sont payés 1 euro la journée pour plonger là-dedans et aller chercher des minerais hyper rares. Tout ça pour que tu puisses avoir le tout dernier iPhone à 1000 boules. Putain, et on va s'en sortir. On va consommer que l'énergie dont on aura besoin et pas tout ce qu'on nous dit de consommer pour avoir l'air évolué. On fera des œuvres pour ceux qui n'ont pas, des œuvres d'art dans tous les coins de rue, des bateaux pour nos frères qui fuient leur pays en guerre. Et si leur pays est en guerre, c'est aussi un peu grâce à nous qu'on leur fournit de quoi la faire. S'en sortir. Oui, moi aussi, j'avoue, j'ai un petit peu des doutes parfois quand je regarde ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, si on baisse les bras et qu'on fait rien que gueuler comme des harengs derrière nos putains d'écrans, on laisse tous ces tarés continuer à diriger et à tout massacrer. Alors viens, on se bouge le cul, c'est bon pour les fessiers, la planète et l'humanité. Allez, viens, on se bouge le cul.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission. On vient d'écouter une chanson qui s'appelle effectivement On va s'en sortir et qui est chantée par Hélène Piris, que je ne connaissais pas jusqu'au jour où j'ai découvert cette chanson sur YouTube, pour ne rien vous cacher. Voilà, on vous a parlé plusieurs fois, je vais reprendre la parole pendant quelques minutes, on vous a parlé plusieurs fois des répressions et de la dérive de l'administration de Trump aux États-Unis, à de multiples reprises d'ailleurs. Et là, donc, Amnesty vient de publier un article qui précise de façon bien plus ciblée ce que signifie cette police anti-immigration qui s'appelle l'ICE. Et Amnesty s'interroge, est-ce que l'ICE est une police ou une milice ? L'Immigration and Custom Enforcement, ICE in English, la police états-unienne de l'immigration créée en 2003, est-elle infiltrée par des émeutiers et des groupes paramilitaires ? La question a été soulevée au Congrès des États-Unis le 12 janvier dernier. Dans une lettre adressée au département de la sécurité intérieure, dont dépend l'ICE, des élus démocrates de la Chambre des représentants s'inquiètent des possibles recrutements d'anciens protagonistes de l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, ainsi que des membres des Proud Boys, groupuscule prônant le suprémacisme blanc. Cette inquiétude s'inscrit dans un climat de porosité assumé de l'administration républicaine aux mouvances les plus radicales de l'extrême droite. Dès son retour à la Maison-Blanche en janvier 25, Donald Trump a gracié près de 1600 émeutiers du Capitole. Parmi eux, Jared Wise, ex-agent du FBI, accusé d'avoir appelé la foule à tuer les policiers anti-émeutes. Là, il a pourtant été recruté en juillet par le département de la justice. Fin 2025, l'administration fédérale lance l'opération Metro Surge, une campagne d'arrestation d'étrangers d'une ampleur inédite. Elle fixe à l'ICE un objectif de plus de 3000 interpellations quotidiennes. Pour atteindre ce quota vertigineux, son budget est multiplié par 3. Et près de 12 000 membres sont venus renforcer l'agence qui en comptait 10 000. Les messages diffusés sur les réseaux sociaux pour attirer les candidats recourent explicitement à une rhétorique guerrière, raciste, incitant à protéger notre culture parce que les ennemis sont à nos portes. Et le slogan « Nous reprendrons notre maison » fait écho au mot d'ordre de l'extrême droite américaine. Le profil radical de nouvelles recrues, combiné à une formation bâclée en 42 jours, favorise la multiplication d'abus souvent perpétrés par des policiers masqués. Contrôle au faciès, arrestation arbitraire, détention de mineurs, perquisition illégale. Ces exactions suscitent une vive contestation citoyenne dans plusieurs villes. L'indignation s'intensifie en janvier lorsque deux manifestants sont abattus à Minneapolis, à quelques jours d'intervalle. Une vidéo de la mort d'Alex Preti montre un agent fédéral applaudissant tandis que les coups de feu claquent dans l'air glacé. Devant la gravité et le nombre d'incidents, certains experts n'hésitent plus à taxer l'ICE de milice. Ainsi, Erika de Bruyne, professeure au Hamilton College et spécialiste des relations entre les forces armées et le pouvoir civil, estime que l'agence remplit désormais tous les critères constitutifs d'une organisation paramilitaire. À l'instar du général Mark Ertling, ancien commandant de l'armée états-unienne en Europe, qui qualifie l'ICE de milice indisciplinée, ni civile ni militaire. L'opinion publique semble tout aussi inquiète. 60% des Américains ont un avis négatif sur l'ICE, selon un sondage du Navigator Research effectué mi-février. Voilà qui précise les choses sur des informations. Dans les émissions précédentes, on vous a parlé à plusieurs reprises des exactions et des meurtres commis par l'ICE. Mais là, les choses sont plus précises. Il y a un certain nombre de repris de justice qui sont maintenant rentrés dans les rangs de cette milice.
Voilà, bah, ça me fait penser aussi, là on ne l'a pas mis dans nos articles, mais un peu aux manifestations qu'il y a eu aux États-Unis ce dimanche contre Trump. Et il y en a eu énormément dans l'État où ces deux meurtres ont eu lieu par l'ICE. Je dirais Missouri, mais je ne suis pas sûre de l'État.
Non, ce n'est pas Missouri.
Donc c'est pour ça que je n'ai pas osé le dire, mais voilà, les gens chercheront. Minnesota, peut-être.
Ça doit commencer. Ça doit être ça.
Mais enfin, bon, j'ai le début.
Les auditeurs corrigeront.
C'est pas voilà, donc c'est important aussi, ça fait quand même, on va pas dire chaud au cœur, mais montrer qu'il y a quand même aussi des Américains qui sont complètement, après avoir été abasourdis, qui bougent un peu. No king.
Pas de roi. Voilà. Il y a eu effectivement des millions de manifestants dans les rues, dans plein d'endroits aux États-Unis. Et il faut rappeler que les États-Unis, comme tous les pays anglo-saxons, ont beaucoup moins la culture des manifestations que
nous. Oui, raison de plus. Voilà. Donc ils manifestent beaucoup moins facilement.
Et là, ce sont vraiment des mouvements très, très importants de manifestations.
Mais je crois que tu avais une bonne nouvelle. Moi, j'ai une bonne nouvelle, parce que quand tu nous as dit que tu allais parler de l'ICE, et ben moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est l'Eka Mnordia, une femme palestinienne de 32 ans, qui a enfin été libérée après un an de détention arbitraire par l'ICE. Alors, elle n'avait pas été récupérée dans la rue, mais elle a participé à un rassemblement pacifique en soutien de la Palestine. Et les lois de Trump en janvier 2025, c'était aussi placement en détention et expulsion des personnes n'ayant pas la nationalité états-unienne et qui auraient exprimé leur soutien en faveur des droits du peuple palestinien. Donc ces décrets, disent Amnesty, c'est des attaques directes de la liberté d'expression. Donc cette jeune femme, elle a vécu un an en détention, interpellée, mise dans ce centre. Ses droits religieux ont été largement ignorés. Elle n'a pu avoir ni la nourriture adaptée à sa religion, ni d'espace pour prier, et s'est vue refuser d'être prévenue lorsque des hommes entrent dans le dortoir et qu'elle ne portait pas son voile. Alors, nous souhaitons à Leka de bonnes retrouvailles avec sa famille et nous continuerons à suivre l'évolution de son cas jusqu'à ce qu'elle obtienne la justice qu'elle mérite. Donc voilà, on peut survivre, passer à l'ICE et peut-être de temps en temps sans être libéré. Mais c'est très compliqué.
Merci Edith. Il y avait Clarlis qui voulait revenir sur les droits des migrants, mais c'était au niveau européen, c'était plus au niveau local. Mais bon, c'est toujours le même sujet. Hein. C'est toujours les droits des migrants et des réfugiés.
Oui.
Voilà.
Alors, le 24 mars 2026, le Parlement européen a validé un ensemble de mesures marquant un durcissement net de la politique migratoire. Donc, l'ambition de cette réforme est double. Restaurer l'efficacité des dispositifs migratoires tout en renforçant la sécurité intérieure. Donc, depuis plusieurs années, les institutions européennes sont confrontées à un constat préoccupant. Selon Euronews, seulement 30% des décisions d'expulsion sont effectivement exécutées dans l'Union européenne. Ce décalage entre décisions administratives et exécutions opérationnelles est au cœur de la réforme. La Commission européenne et plusieurs États membres ont insisté sur la nécessité de rendre les politiques migratoires plus contraignantes. Comme l'a résumé la commissaire européenne, Ylva Johansson, nous devons garantir que ceux qui n'ont pas le droit de rester soient effectivement renvoyés. Donc, politique migratoire, l'externalisation comme levier stratégique. C'est-à-dire que le changement le plus structurant concerne l'externalisation du traitement migratoire. Alors, je vous en avais déjà parlé à un moment donné. Ils voulaient, avec les nouvelles lois migratoires, par exemple, que les demandeurs d'asile ne demandent pas l'asile en France, mais dans des pays déclarés sûrs, à l'extérieur de l'Europe, ils feraient leur demande d'asile en Libye, en Albanie.
En Albanie, c'est ça.
Albanie, c'est très accueillant. L'Italie qui utilise.
Voilà, ils feraient leur demande d'asile à l'extérieur. Et s'ils sont autorisés, reconnus réfugiés, ils pourraient venir. Et sinon, ils restent. Donc là, c'est différent. C'est-à-dire que il parle de l'externalisation du traitement migratoire, donc ils pourront transférer les migrants vers des pays tiers considérés comme sûrs, y compris en l'absence de lien préalable avec ces pays. Et cette évolution rompt avec un principe fondamental du droit d'asile européen. Elle ouvre la voie à une politique beaucoup plus offensive de gestion des flux migratoires. Et selon France 24, ces mesures incluent la mise en place de centres de traitement en dehors de l'Union européenne, destinés notamment aux personnes déboutées du droit d'asile. Parce qu'avant, ils en parlaient pour ceux qui demanderaient l'asile, mais en fait, ils sont en train de travailler sur des centres qui sont souvent qualifiés de hubs de retour. C'est-à-dire, ces centres constituent un outil central du nouveau dispositif. Leur objectif est multiple. D'une part, ils permettent de désengorger les systèmes nationaux d'asile, saturés dans plusieurs États membres. Et d'autre part, ils visent à dissuader les arrivées irrégulières en rendant leur parcours migratoire moins attractif. Alors, tout ce que je vous dis, c'est aux yeux des institutions européennes et des partis politiques d'extrême droite qui ont mis en place cette politique, hein, parce que ce n'est pas complètement mon idée. l'enjeu est totalement sécuritaire. En externalisant une partie du traitement des migrants, les autorités européennes cherchent à mieux contrôler les flux en amont. Et ce dispositif limite la présence prolongée de migrants en situation irrégulière sur le territoire européen, réduisant ainsi les risques liés à l'absence de suivi administratif. Cependant, cette approche suscite des inquiétudes. Certains acteurs politiques et associatifs dénoncent une logique de délégation vers des pays tiers, parfois moins exigeants en matière de droits fondamentaux, et alertent, parce que tout pays qui veut de l'argent serait prêt à accepter ce type d'accord et à créer ce type de centre. Alors, au cœur de la réforme figure également un renforcement massif des procédures d'expulsion. L'objectif est d'augmenter significativement le nombre de retours effectifs aujourd'hui jugé insuffisant. On a l'impression d'entendre un certain ministre là, ou ancien ministre, mais voilà, c'est toujours le même discours. Hein. Pour y parvenir, l'Union européenne introduit un mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions de retour. Concrètement, une expulsion décidée par un État membre pourra être exécutée dans un autre. Et cette mesure vise à empêcher les stratégies de contournement consistant à se déplacer d'un pays à un autre pour éviter une expulsion. Selon Associated Press, ce système s'appliquera à l'ensemble des 27 États membres, renforçant ainsi la cohérence du dispositif européen. Et il s'agit d'un changement majeur dans la gestion de l'immigration irrégulière. Et par ailleurs, les autorités disposeront de nouveaux outils coercitifs, le recours à la détention prolongée, la confiscation des documents ou encore l'interdiction d'entrée sur le territoire européen qui seront facilitées en cas de non-coopération. Ces mesures traduisent une volonté claire, rendre des décisions administratives réellement effectives. Et le durcissement de la politique migratoire ne peut être dissocié du contexte politique européen. Le texte a été adopté avec une large majorité avoisinant les 400 voix favorables selon Politico Europe. Et ce résultat illustre le poids croissant des forces politiques favorables à une ligne plus stricte en matière d'immigration. Disons les formes d'extrême droite, hein, je vais vous prendre un raccourci, mais c'est vraiment des partis d'extrême droite. Et la question migratoire est désormais étroitement liée aux enjeux de sécurité, de souveraineté et de stabilité sociale. Pour les partisans de la réforme, il s'agit d'un ajustement nécessaire. Et face à des flux migratoires persistants et à des systèmes nationaux sous tension, une réponse coordonnée et ferme apparaît indispensable. À l'inverse, les critiques se multiplient et dénoncent une étape de plus en plus de la déshumanisation de la politique migratoire. Et ces oppositions mettent en avant les risques liés à l'externalisation et à l'usage accru des mesures coercitives. Donc cette réforme n'est toutefois pas entièrement adoptée. Elle doit encore faire l'objet de négociations entre les États membres. Et cette phase sera déterminante pour préciser les modalités d'application, notamment en matière de coopération avec des pays tiers et de garanties juridiques. Voilà.
C'est bien soucieux.
C'est une
catastrophe. Ça va toujours dans le même sens, surtout.
Ça va surtout dans le même sens.
C'est la criminalisation des gens qui cherchent simplement à avoir un avenir. Voilà.
À travers
l'immigration, d'avoir un avenir.
C'est l'Europe qui ferme ses frontières à l'arrivée de populations qui viennent majoritairement quand même d'Afrique subsaharienne ou du Proche-Orient ou des pays de l'Est. C'est aussi quand même, il y a quand même une forme de racisme, de xénophobie.
Sachant qu'au Parlement européen, c'est quand même des groupements de droite, voire plus droite que droite, qui sont à l'initiative de ça, et avec les élections. D'où l'importance des élections partout, parce que ça crée ces mouvements qui peuvent voter ces lois très contestables.
On passe la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Je sais que tu flippes l'ami. Tout seul à te demander quelle connerie t'as pu faire pour en arriver là. Ton proprio te vire, ta femme se fait la malle, tes enfants ont la honte et tes copains ricanent. Tout le monde te fait croire que t'es un bon à rien, que t'es pas un gagneur, que t'es pas un battant. T'as du mal à penser, tu vas à la dérive. Alors tu penses au gaz, mais le gaz est coupé. Ta dignité l'ami, tu crois qu'elle est bafouée, car ta vie tu l'as vouée à de fausses valeurs. la morale du travail, la productivité, l'État et les patrons, leurs mensonges et leurs lois. Tu n'es que la victime d'un complot bien monté, celui de l'exclusion, parfaitement planifié pour faire marcher le monde. Hier on t'exploitait, aujourd'hui on te jette. Ça s'appelle le progrès. De cet apocalypse, on est seulement coupable d'avoir été aveugle. Nos brillants décideurs, que vont-ils faire de nous? Partager les richesses, faut pas rêver la vie. Collons-nous une étoile pour mieux nous reconnaître. Combattons l'exclusion et la pensée unique. Creusons-nous les méninges, caressons l'utopie. Réinventons le monde, réinventons la vie.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International. On vient d'écouter une chanson qui s'appelle « Aux exclus » et qui a été enregistrée il y a quelques années par François Béranger. Voilà.
Très, très agréable à réécouter.
Bon, il y a un sujet qu'on ne pourra pas aborder. Qu'on
voilà,
vous
avait,
qu'on
c'est
vous
moi.
Avait parlé.
On lui accorde 2 minutes.
Je ne vais pas pouvoir faire le point sur Israël, le Liban, les territoires occupés, les colons.
Parce que le chrono est parti.
Mais je voulais quand même.
Non, c'est super important, c'est pour
voilà,
ça qu'on la laisse.
Je voulais quand même faire un tout. Parler de cette loi que vous avez dû entendre.
Vas-y.
La loi sur la peine de mort ciblant les Palestiniens, donc qui vient de sortir le 30 mars, donc hier, une loi qui permet aux tribunaux d'imposer la peine de mort aux personnes reconnues comme terroristes par Israël. Cette loi rétrograde, dangereuse, cible clairement les Palestiniens et Palestiniennes. Nous appelons Amnesty à son abrogation immédiate. Israël se donne sans vergogne carte blanche pour exécuter des Palestiniens et Palestiniennes, tout en s'affranchissant des garanties les plus élémentaires d'équité des procès. C'est ce que vient de dire la directrice régionale chargée de la recherche du plaidoyer Amnesty. Voilà, on en parlera la prochaine fois.
Mais rassure-nous, c'est bien dans Israël et c'est pas en France. La peine de mort en France reste interdite.
Absolument, mais là, en Israël, comme elle est située là, c'est vraiment ciblé, vraiment, les Palestiniens,
c'est
les terroristes.
C'est ce qu'on appelle une loi d'exception.
Oui. Voilà.
Donc on en parlera.
Ça va dans le sens des crimes d'apartheid de commis par les gouvernants israéliens. Voilà.
Et c'est l'une des lois les plus extrêmes au monde sur la peine de mort. Donc, bravo Israël.
Bon, on va revenir à notre actualité locale parce que je pense qu'on a un truc à vous dire important là, qui va se passer la semaine prochaine.
Oui, donc c'est une invitation à venir voir un documentaire, un film. Et donc, nous proposons un ciné-débat le jeudi 9 avril au Zénith, au ciné-Zénith à Évreux. Et ce débat, il sera co-animé entre Amnesty et nos amis du réseau d'éducation sans frontières, avec lesquels on partage plus qu'un local, on partage des valeurs.
Je te coupe juste une seconde, c'est le ciné Pâté, t'as dit ciné Zénith, c'est l'ancien nom, c'est le Pâté, c'est le
Pâté Gaumont, je dis que là ça faisait un peu vieux.
Faut pas fâcher le directeur du ciné Pâté. Donc, Tout va bien, c'est un documentaire de Thomas Ellis qui est sorti le 7 janvier 2026 et qui suit le parcours de 5 adolescents migrants arrivant à Marseille. Donc le film raconte l'histoire de ces 5 adolescents âgés de 14 à 19 ans qui ont traversé des déserts et des mers seuls pour arriver à Marseille. Et ces jeunes portent en eux l'espoir d'une nouvelle vie et ils doivent apprendre un métier, un pays, des habitudes et pour certains, une nouvelle langue. Tout au long du film, ils répètent à leur famille « tout va bien » pour se rassurer. Mais le véritable voyage ne fait que commencer. Et leur arrivée à Marseille, censée être leur nouvel Eldorado, et leurs intégrations vont s'avérer bien plus difficiles qu'ils ne l'avaient imaginé. Donc, ce documentaire met en lumière les trajectoires de ces mineurs non accompagnés, en montrant leurs défis et leurs réussites. Le réalisateur Thomas Ellis souligne que le film cherche à humaniser les personnes arrivant en France. C'est un petit peu le contre-discours
de ce que tu as dit tout à l'heure.
Alors,
tout à fait.
En montrant qu'elles sont pleines de rêves et d'envie de trouver leur place et à éviter les amalgames entre immigration et problème. Le téléphone est présenté comme un sixième personnage servant de lien entre leurs parents et de moyens de raconter leur histoire. Alors, pour les informations pratiques, le réalisateur, donc c'est Thomas Ellis, le documentaire dure 86 minutes et le film a déjà été projeté dans plusieurs cinémas et événements, suivi de rencontres avec le réalisateur. Donc là, nous, on vous propose un ciné-débat le 9 avril, mais le réalisateur ne sera pas là. Il y aura nous, donc les membres d'Amnesty et les membres du réseau d'éducation sans frontières, parce que le réseau d'éducation sans frontières, RESF, ce sont eux qui, sur Évreux, s'occupent des mineurs non accompagnés qui n'ont pas été reconnus mineurs par l'ASE et qui se retrouvent au bout de 8-10 jours d'évaluation à l'hôtel, se retrouvent largués dans la rue. Et souvent, le réseau d'éducation sans frontières, les membres du réseau, s'occupent de ces jeunes, essayent de rentrer en lien avec leur famille, de faire arriver des papiers d'identité, enfin des papiers, acte de naissance, et puis ensuite faire un passeport aux ambassades dont les jeunes dépendent. Une fois qu'ils ont ces papiers, on peut refaire une saisine auprès du juge des enfants. Et là, le juge des enfants les reconnaît mineurs. Et ensuite, ils peuvent faire une scolarité en France. Et quand le réseau d'éducation sans frontières s'occupe de ces jeunes, il ne les laisse pas larguer parce que la rue, c'est quand même...
Quand tu as 14 ans, c'est pas...
C'est dangereux. Ouais. On peut faire des mauvaises rencontres, être entraîné dans des trafics de tout genre, etc. Et donc, du coup... ce sont des enfants, enfin des adolescents, des enfants, ils sont mineurs. On doit s'en occuper, c'est un devoir de l'État français de s'en occuper. Et donc ce documentaire offre un regard juste, vivant et émouvant sur le parcours de ces jeunes migrants et sur leur intégration dans un nouveau pays. Alors, juste les 5 jeunes, donc il y a Aminata, 15 ans, qui est originaire de Guinée-Conakry et qui est venue en France, enfin qui s'est enfuie pour éviter un mariage forcé avec un homme plus âgé. Et elle veut faire des études pour devenir aide-soignante ou infirmière. Junior, 16 ans, originaire de Côte d'Ivoire, a quitté son pays pour réaliser son rêve, devenir footballeur professionnel. Il étudie en bac pro dans un lycée hôtelier pour devenir serveur ou maître d'hôtel. Khalil, 17 ans, originaire d'Algérie. Donc il a des soucis familiaux qui l'ont empêché de réussir à l'école. Il est venu sans avertir ses parents et il veut travailler comme électricien ou plombier. Et il y a Tibiane, 15 ans, qui est originaire de Côte d'Ivoire. Et c'est le grand frère d'Abdoulaye, 14 ans. Donc Tibiane veille sur son petit frère. Ils sont arrivés tous les deux en France, ensemble. Ils logent à l'hôtel pendant qu'on vérifie qu'il est bien mineur. C'est ce que je vous disais, c'est la période où, en fait, on les observe. Celui de 15 ans n'a pas été reconnu mineur, alors celui de 14 ans l'a été reconnu, et lui, il est séparé de son frère et il vit en foyer. Il suit des cours au collège à Marseille, alors que Tibiane attend que sa situation puisse se débloquer. Voilà. Ce sont des enfants, enfin des jeunes qui sont émouvants, courageux, et je pense que vous prendrez plaisir à découvrir ce documentaire avec nous.
Et je crois que j'ai vu aussi qu'il est fait sur la durée, ce documentaire. C'est-à-dire, ce n'est pas une fois, c'est sur toute une année.
Sur plusieurs années, même, en fait. Ça a été filmé sur plusieurs années. Dans le dossier de presse, le réalisateur précise qu'il avait commencé ce travail en 2018, quelque chose comme ça, qui a été interrompu après par le Covid, mais il a commencé à tourner, en fait, après le Covid. Donc, il a tourné pendant plusieurs années, effectivement.
Alors, vous avez amené le dossier de presse qui fait 37 pages, mais...
Oui, mais on n'aura
pas... Tu ne vas pas tout nous dire aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui.
On n'aura pas le temps.
Donc, on vous
donne rendez-vous le 9 avril.
Voilà.
Tu peux mettre les 37 pages.
Jeudi, 9 avril, 19h15.
Et c'est 9 euros la place.
9 euros, oui, le cinéma.
C'est 9 euros, ce n'est pas nous, c'est le cinéma.
Non, mais c'est une place un peu moins chère que le prix...
Qui a défini le prix d'entrée du film.
Un documentaire.
C'est lui qui assère la partie économique du film, c'est pas
donc
nous,
parlez-en autour de vous, emmenez des jeunes, emmenez des moins jeunes.
Nous on a mis
et là c'est une vision humaine.
C'est ça.
Des personnes qui arrivent et ça fait du bien aussi.
Ben, c'est aussi un film qui parle de par ce qu'il montre, mais sans faire de grands discours, d'après ce que j'ai compris, déconstruit effectivement les préjugés. Il montre la richesse et la diversité des parcours et par la même lutte contre la xénophobie et les amalgames entre migration et criminalité.
Et ça revient aux lois européennes, dis donc.
C'est ça. Et ça me rappelle quand même, parce que ça, c'est un truc que je pense que je ne digérerai jamais dans ma vie, ces propos absolument ignobles d'un individu qui s'appelle Éric Zemmour et qui ose se présenter à des élections et qui a dit il y a quelques années... Les mineurs isolés étrangers ne sont que des voleurs, des violeurs et des délinquants. Voilà, effectivement. Eh bien, Éric Zemmour, pour moi, n'est qu'un con fini. Voilà, il faut appeler
un
chat.
T'as rien grossier, quand même. On avait dit pas de grossièreté à l'antenne.
Non, on va dire que c'est quelqu'un que nous ne souhaitons pas avoir.
De toute façon, sur sa liste, à Évreux, ils ont fait 2%.
Oui,
donc...
mais quand même 2%. Mais c'est toujours ça.
On rappelle toujours aux gens, quand ils ont un bulletin de vote dans les mains, de bien faire attention aux conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Effectivement, voilà. Donc, on se retrouve, nous, à la radio, le 14 avril. C'était le mardi 14 avril. Qui, indépendamment du fait qu'on fait la radio,
c'est une date, une Papy
Rio aura 72 ans.
C'est sympa de le dire à l'antenne, tiens.
C'est son anniversaire.
Voilà, c'est mon anniversaire. Et donc, on se retrouve le 14 avril sur l'antenne de Principe Actif. On abordera le sujet que tu voulais développer.
Parler un petit peu. La problématique avec ce sujet-là, c'est que ça change tout le temps. C'est-à-dire que, malheureusement, ce ne sont que des mauvaises nouvelles qui s'accumulent.
De toute façon, le conflit, c'est terrible.
Israël et le Liban, Israël et les colons, Israël
et la
Cisjordanie.
Pendant ce temps-là, on parle plus de Gaza et continue à...
Et Gaza, mais sans Gaza aussi, voilà, tout à fait.
Ouais, c'est aussi une conséquence, quand je parle de bulletins de vote, de gens comme aux États-Unis qui ont mis des bulletins de vote majoritairement pour Trump. Ben, on voit les conséquences maintenant, voilà. Mais maintenant, c'est trop tard, c'est fait. Donc, on voit effectivement...
Il y a le mid-term, on dira. On verra ça en novembre.
Oui, mais enfin bon...
Et c'est l'heure de dire au revoir.
Oui, voilà. C'est l'heure de dire au revoir. Donc, on se retrouve le 14 mars pour la radio, pour l'émission de radio. Et on se retrouve surtout le 9 avril, le 14 mars, le 14 avril. On se retrouve surtout le 9 avril pour...
Au ciné, au pâté.
Tout va bien, bon, 19h15 au cinéma. Il y aura aussi une table de presse, bien sûr.
Il est déjà affiché sur le programme, dans les films à venir.
Sur les réseaux sociaux aussi, sur nos pages Facebook et pages Instagram. N'hésitez pas à diffuser l'information. Voilà, on vous dit bonne soirée et à très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.